voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Marcello, come here. Tous les cinémas du monde. Sophie Dorlotin, Elisabeth Le Quéré.
Une tragédie familiale, un conflit qui n'en finit pas, des vies brisées ou suspendues. Sam Mooney Road raconte le quotidien d'une famille de paysans, une famille dont 30 membres ont été tués pendant l'opération Plan Durci en 2009 dans la bande de Gaza. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous.
Et nous parlerons aussi du nouveau film de Catherine Corsini, Un amour impossible, du nouveau Harry Potter, enfin je ne sais pas si je peux dire le nouveau, c'est dérivé, c'est ça,
de l'univers. Un
spin-off dérivé de l'univers d'Harry Potter. Ça s'appelle Les Animaux Fantastiques de Peter Yates et ce sera en salle mercredi prochain. Mais on part tout de suite pour Tunis où se tiennent les 29e journées cinématographiques de Carthage.
Oui, c'est l'un des grands rendez-vous panafricains du 7e art avec le FESPACO de Ouagadougou. Cette 29e édition veut porter haut les valeurs, je cite, de tolérance, d'ouverture et d'amour. C'est ce qu'a assuré le directeur Nejib Ayed. Tolérance, car les projections se sont faites sous haute surveillance après un attentat à suicide. C'était il y a une dizaine de jours au cœur même de Tunis. 44 films sont en compétition, 13 longs-métrages, dont Makila de la Congolaise Machiré Kwabaongo, Mon cher enfant de Mohamed Ben Atia ou encore le nouveau film de l'Irakien Abbas Fadel après sa fresque documentaire phénoménale Homeland Irak Année Zéro, un nouveau film intitulé Yara. C'est au Liban qu'Abbas Fadel a tourné Yara, donc une histoire d'une jeune villageoise qui vit seule avec sa grand-mère. Beaucoup ont immigré à l'étranger et elle, cette jeune fille, va tomber amoureuse d'un jeune randonneur. Yara, donc candidat au Tanit d'or des JCC de Carthage, en compagnie également de Sofia, de Myriam Membarek, ou de Rafiki, de Wanouri Kaïou.
En Russie, le cinéma entre propagande et censure.
Oui, alors tout d'abord, propagande. Il y a une comédie romantique intitulée Pont de Crimée, fait avec amour, point d'exclamation. C'est le titre du film,
qui est
comparé par les critiques à de la propagande soviétique. Il est en salle depuis quelques jours, ce film. Il raconte les amours d'une jeune archéologue pendant la construction d'un pont géant entre la Russie et la Crimée. Je rappelle que la Crimée a été annexée par la Russie en mars 2014. Le pont existe vraiment. Il a coûté près de 3 milliards d'euros. Et surtout, cette comédie romantique a été financée par l'État russe. Propagande donc de ce côté, censure de l'autre, car un film américain à grand spectacle ne peut pas sortir en salle.
Admiral, the Tampa Bay's gone missing just above the Kola Peninsula.
Sir, we've got a shootout under the ice.
I told Six Fleet you want to hunt a killer.
We've been ordered to cross waters that no American sub has ever crossed before.
Voilà, Hunter Killer de Donovan Marsh devait sortir la semaine dernière en Russie, mais la compagnie de distribution n'aurait pas livré à temps une copie du film de la qualité requise à la Cinémathèque. Étrange explication. Il semble que ce soit le scénario du film qui déplaise. Dans Hunter Killer, en effet, on voit des soldats américains sauvant le président russe afin d'empêcher une troisième guerre mondiale. Le film dans lequel joue Gary Oldman devait sortir quand même dans 850 salles en Russie. Alors, on pourra le voir en France. Vous pourrez vous faire une idée. Ça sera à partir du 12 décembre.
Et maintenant, on part à Washington où un lieu public ayant servi de décor de film pourrait bien devenir un monument historique.
You know what she did? Your acting daughter?
You're sorry! Jesus Christ, 88 doctors, and all you can tell me was all your bullshit!
You
Alors c'est un escalier construit en 1895, 75 marches funestes. Un escalier qui a servi de décor à l'un des films d'épouvante les plus cultes, L'Exorciste de William Friedkin, sorti en 1973. Alors souvenez-vous, le père Damien Carras, possédé par le démon dont il tentait de délivrer une petite fille, se défenestre et finit son roule-boulé dans une mare de sang au pied de l'escalier. Une association de riverains a demandé à ce que cet escalier soit déclaré monument historique, et ce, alors peut-être pour l'amour de l'art, mais peut-être aussi surtout pour empêcher la construction d'un complexe immobilier à proximité.
Ah oui, d'accord, tout s'explique donc. Dernière étape de notre tour du monde, Sophie, le Danemark. Nous sommes en ligne avec notre correspondante en Scandinavie, Anne-Françoise Hiver. Bonjour.
Bonjour.
Alors, le Danemark, Anne-Françoise, ce petit royaume d'Europe du Nord, avec 5,7 millions habitants seulement, mais des séries dont raffole le monde entier. Borgen, bien sûr, Brode, Killing, Les Héritiers. Il était inévitable que les géants américains, Netflix, HBO, soient bien décidés aujourd'hui à multiplier les productions locales.
Oui, et début mai, Netflix a diffusé sa première série danoise, d'ailleurs, The Rain. Une trentaine d'autres projets seraient en développement actuellement, mais faudrait-il encore que Netflix et HBO acceptent de s'asseoir à la table des négociations avec les syndicats qui exigent le respect du modèle danois de rémunération, ou bien les contrats ne seront pas signés.
Alors ce modèle danois justement défendu par les syndicats, c'est quoi ?
Eh bien c'est assez simple. Au Danemark, acteurs, scénaristes et réalisateurs sont rémunérés de deux façons. D'abord par un salaire versé au moment du tournage pour le travail effectué, et puis par des royalties dont le pourcentage est prévu dans le contrat. Concrètement, cela signifie une prise de risque collective. Si la série ou le film est un bide, personne ne touchera rien. Si au contraire la production fait un carton, tous ceux qui sont inscrits au casting peuvent facilement doubler leur salaire. Les syndicats ont fait une estimation en se basant sur 6 séries produites ces dernières années par la chaîne publique DR. Les chiffres sont éloquents puisqu'en moyenne, acteurs, scénaristes et réalisateurs ont touché 126% de leur salaire initial en droit sur 10 ans. Comme il est de coutume, au Danemark, ce système a d'ailleurs été fixé par les accords collectifs de branche négociés entre les syndicats et les producteurs.
Et donc en face, que proposent HBO et Netflix ?
Eh bien, pour le moment, les Américains ne veulent rien entendre. Ils exigent un système dit de buy-out. En gros, ils rachètent les droits des personnes embauchées pour un tournage en augmentant sensiblement leur salaire d'environ 15 à 25%. L'argument des deux compagnies étant qu'elles gèrent des tournages dans le monde entier et ne s'y retrouveraient plus si elles devaient verser des droits partout à tout le monde pendant des années. Sauf que les syndicats danois rappellent que HBO et Netflix ont déjà passé des accords dans plusieurs pays, les États-Unis, le Canada, l'Australie par exemple, et ils soulignent le manque à gagner pour les trois professions, justifiant selon eux cette mobilisation exceptionnelle.
Cette mobilisation exceptionnelle dont vous parlez, justement, elle s'exprime comment ?
Eh bien, le 24 octobre, les syndicats danois ont annoncé qu'ils feraient désormais front commun face à la puissance de frappe des géants américains qui devront désormais négocier avec Create Denmark, une organisation fondée en 2016 pour défendre les droits d'auteur des artistes nationaux. Les syndicats disent être bien conscients que le modèle danois ne pourra sans doute pas être appliqué à la lettre, mais ils veulent un compromis, que les Américains respectent la tradition de négociation collective danoise. En attendant de trouver un accord, HBO et Netflix ne pourront signer aucun contrat avec les acteurs, scénaristes et réalisateurs danois syndiqués, c'est-à-dire plus de 9 sur 10. Les plateformes de streaming ont pour le moment refusé de commenter l'action. L'association des producteurs danois s'attend à une opposition dure, éventuellement la délocalisation de production. Les syndicats, eux, assurent qu'ils tiendront.
Merci beaucoup Anne-Françoise Hiver. Je rappelle que vous êtes notre correspondante au Danemark. C'est donc une belle guerre de tranchées qui se prépare. 14 nouveaux films en salle cette semaine. Une comédie romantique, la première avec un casting 100% asiatique. Elle arrive en France après avoir cartonné, entre autres aux États-Unis. C'est Crazy Rich Asians, une fable cruelle dans une nature paradisiaque magnifiée par la caméra de l'italienne Alice Rohrwacher. C'est Heureux comme Lazzaro, prix du scénario à Cannes. Un vaisseau spatial rouillé en perdition au-delà du système solaire. C'est le nouveau film de Claire Denis, de science-fiction, bien sûr, High Life. Et puis, le portrait magnifique et terrible d'une femme, adaptée du roman autobiographique de Christine Angot, Un amour impossible de Catherine Corsini.
Ma mère et mon père se sont rencontrés à Châteauroux, dans la cantine qu'elle fréquentait. trois sortes d'amour. L'amour conjugal, c'est celui que tout le monde veut. Ensuite, il y a la passion. Et ensuite, il y a ce que j'appelle la rencontre inévitable.
T'aimes une femme?
Oui. Un amour impossible, hein, Elisabeth. Nous sommes dans les années 60, au fin fond de la province française. Une jeune fille naïve, c'est Virginie Efira, tombe passionnément amoureuse d'un grand bourgeois parisien. Et quand elle tombe enceinte, il prend la fuite, il refuse de reconnaître l'enfant, mais il va continuer à la voir sans toutefois rien lui laisser espérer. Un amour impossible, c'est donc l'histoire de cette femme Rachel et de sa fille Chantal, élevée par sa mère et finalement détruite par ce père, hein, qui est présent en pointillé, qui va abuser d'elle à chacune de ses visites.
Oui, alors c'est vrai que vous l'avez dit, Sophie, hein, inceste plus lutte des classes plus homme pervers et femme soumise. 2h15 pour raconter tout ça, autant vous dire que j'y allais vraiment à reculant. Et en fait, j'étais éblouie par ce film. Alors, éblouie par quoi? Déjà par la capacité de narration, l'intelligence, hein, avec laquelle Catherine Corsini et sa co-scénariste ont adapté le roman de Christine Angot. Éblouie par Virginie Efira, qui joue cette femme de 20 à 70 ans, jeune femme amoureuse, mère célibataire, hein, dans la France des années 60, fille mère, comme on disait alors. Donc, cette femme qui voit sa fille grandir, attentive à tout, mais sans voir l'essentiel, c'est-à-dire l'inceste, hein, qui se passe quasiment sous ses yeux, et à qui sa fille, des années plus tard, donc Christine Angot, elle s'appelle Chantal dans le film, et c'est bien Christine Angot, des années plus tard, elle viendra lui réclamer des comptes. Alors Catherine Corsini, elle a eu des hésitations, hein, d'ailleurs, quand on lui a proposé d'adapter ce roman, mais finalement, qu'est-ce qui a fait pencher la balance? C'est elle qui va nous le dire.
Et je crois que le point d'accroche a été le portrait de cette femme, ça a été le... Bah, je trouvais tellement émouvant le destin, quoi, le destin d'une femme ordinaire qui s'entiche comme ça, qui d'un homme et qui tombe sur le mauvais, quoi. Tout d'un coup, pourquoi dans une vie on choisit la mauvaise personne qui va nous entraîner vers des catastrophes? Pourquoi on s'accroche? Moi, j'ai vu à travers cette femme le destin aussi de beaucoup de femmes de ma famille et évidemment de beaucoup d'autres femmes que je ne connais pas. Ça a été quand même pour beaucoup la place des femmes dans l'histoire de France depuis des siècles et encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça m'a bouleversée, parce que j'ai senti que à travers ce destin très particulier, il y avait aussi, ben ça faisait miroir, ça tendait un miroir à beaucoup, beaucoup d'autres femmes. Je pensais donc à nos mères, à nos tantes, à mes tantes, enfin voilà.
Qu'est-ce qui vous a conduit à choisir Virginie Efira? Parce que le personnage de Rachel, la mère, elle est quasiment dans chaque plan du film.
Je l'ai rencontrée par hasard dans une émission de radio. Je sais qu'elle aimait très beaucoup le roman. Elle me l'avait fait dire. Et en fait, en la rencontrant, surtout ce qui m'a... C'est que j'ai senti la solidité de Virginie comparable à celle de Rachel. J'ai senti qu'il y avait un socle commun. Et pour moi, la force de Virginie, la chose comme ça populaire qu'elle transmet, et puis son truc extrêmement sympathique. Je voulais aussi que ça soit une femme qui soit lumineuse et qui soit brisée par un homme, mais que ça soit une femme forte. Si c'est une femme qui est déjà... elle-même torturée, ça n'a pas du tout le même impact. Là, il y a aussi le fait que c'est une femme forte, c'est un homme fort, et cette relation aussi est aussi terrible.
Le mystère du personnage de Virginie Efira, c'est que Rachel, c'est une femme qui est très forte et qui pourtant va se laisser faire et devenir une victime de cet homme. C'est aussi ce point d'aveuglement. Quand sa fille est violée par son père, au moment de l'inceste, elle ne voit rien. Est-ce que vous vous êtes posé la question, avec Virginie Efira, de pourquoi elle ne voit rien?
Tout le film est fait autour de ça, comment cette femme est aveuglée. Donc, il y a des moments où je me suis révolté moi-même en me disant « mais c'est pas possible qu'elle ne voit pas, c'est pas possible, c'est hallucinant ». On a envie de lui mettre des gifles, on se dit « mais au secours, regarde, ouvre les yeux ». Mais elle est tellement dans à sa propre place d'une femme qui se sent incompétente, qui pense que cet homme a tellement plus de culture qu'elle, que voilà, c'est ça qui est assez aussi étonnant. C'est finalement, c'est là où c'est extrêmement politique, c'est de montrer qu'à partir du moment où on met les gens à un endroit, eh ben on leur met des œillères, on ne leur permet pas de regarder les choses telles qu'elles sont.
Catherine Corsini, si je vous dis que ce film, s'il était sorti un an plus tôt, c'est-à-dire avant l'affaire Weinstein, avant le mouvement La Vague MeToo, on ne l'aurait pas du tout vu de la même manière. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Ah, bien sûr, je pense qu'il est arrivé à un endroit où il prend une place complètement différente. Mais c'est vrai que quand on l'a écrit, quand on l'a fabriqué, quand on l'a fait, il n'était pas question du mouvement MeToo, enfin l'affaire Weinstein n'avait pas éclaté. Donc tout d'un coup, il a fait une espèce d'écho incroyable, et c'est ça aussi qui est assez fort, c'est de sentir que tout d'un coup, on va taper un endroit qui est juste, et on l'a montré à des jeunes filles. On voit bien que le film fait écho beaucoup à ce qui se passe aujourd'hui et qui peut être, j'allais dire, un moyen aussi de réfléchir à la place de la femme et qui peut être aussi un moyen de s'emparer de certaines choses, de pouvoir beaucoup plus penser et mettre en relief cette histoire des femmes avec encore aujourd'hui ce qui se passe, quoi.
Catherine Corsini qui nous parle de son film Un amour impossible, et c'est vrai ce qu'elle dit, hein, c'est vraiment un destin de femme qu'elle raconte dans Un amour impossible, et à travers le cas singulier de Rachel, bien sûr, c'est le destin de toute une génération qu'elle dessine. Alors avec vous, Sophie, changement de programme, hein, on prend un peu d'avance sur les sorties de la semaine prochaine. Vous avez vu le deuxième volet de la nouvelle trilogie Les animaux fantastiques, dont le scénario est signé J.K. Rowling, donc la mère de Harry Potter, si je puis dire, un film qui a fait son avant-première ce jeudi à Paris.
Jeudi dernier, effectivement, et une avant-première mondiale, figurez-vous, et pour cause, hein, car une grande partie de ce film, dont l'action se situe en 1927, bien avant donc celle des Harry Potter, l'action donc des crimes de Grindelwald se situe à Paris. Pour ceux qui n'auraient pas suivi le premier volet, je vous rappelle un peu le contexte.
Merci.
Alors, on suit les aventures d'un sorcier, Norbert Dragono, plus à l'aise avec les créatures les plus incroyables qu'avec les humains, répondant à un magicien qui n'est pas encore directeur de l'école de Poudlard, j'ai nommé Dumbledore, ici incarné par Jude Law. Il doit essayer de retrouver à Paris un jeune Américain orphelin, en quête de ses origines, qui pourrait bien être recruté par un mage noir, Grindelwald.
You've known for 24 hours that an unregistered wizard set magical beasts loose in New York.
Yes. Where is this man?
So, you're the guy with the case full of monsters, huh?
Here's travels first.
Alors que les cinéphiles réfractaires aux effets spéciaux et à l'univers Harry Potter passent leur chemin, l'intrigue des animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald, est d'ailleurs assez touffue, par moments confuse, et je vous conseille de réviser vos animaux fantastiques volet numéro 1 pour vous y retrouver. Après, si les sorts de l'Imperium ou d'Adavra Kedavra n'ont pas de secret pour vous, que vous maîtrisez les quatre maisons de Poudlard, que le racisme envers les moldus ou les elfes de maison vous scandalise, eh bien vous trouverez votre compte. Dans cet épisode, le réalisateur historique des principaux films de la saga Harry Potter, David Yates, nous entraîne effectivement dans un pari de synthèse et de recréation magique. Nous sommes toujours en compagnie d'Eddie Redmayne, qui incarne le personnage principal, Norbert Dragono. Cette fois, des acteurs hollywoodiens de poids font leur apparition. Johnny Depp, crédible en génie du mal, Grindelwald, mais surtout Jude Law, le malicieux Dumbledore jeune, où l'on prendra plaisir à découvrir la vision d'un Paris des sorciers, ainsi que des magiciens issus de la diversité. Hein. Plusieurs personnages sont métis, par exemple. Les fans les plus hardcore regretteront que la liaison amoureuse et homosexuelle entre Grindelwald et Dumbledore ne soit pas vraiment évoquée. Et puis on sent aussi, à un mois de Noël, l'ambition mercantile d'un film qui permet la commercialisation de nouveaux artefacts. Moi, ce qui me fascine, malgré tout, c'est la création d'un univers, d'un mythe moderne par J.K. Rowling, comparable en fait au Seigneur des Anneaux de Tolkien. Et un peu la façon dont, même si elle se situe en 1927 dans un monde de sorciers, finalement elle nous parle de notre époque, et donc pour ça, moi j'avoue que j'achète.
Eh bien, merci Sophie, vous m'avez un peu perdue, hein, j'avoue, à un moment donné. Enfin, j'ai juste compris qu'en fait c'est Johnny Depp qui joue le grand méchant. Rien
voilà.
Que ça donne envie de...
Mais Jude Law, il y a,
d'accord. Les Chabadas de Francis Lai, un grand compositeur de musique de film disparu ce jeudi. Et il avait bien sûr composé cette musique mythique, Un homme et une femme. Il avait aussi composé
Bilitis, la musique aussi de Love Story. Donc on lui doit beaucoup de musique culte. Égypte.
Voilà, et rendez-vous dans quelques minutes pour parler de la bande de Gaza et du documentaire Samouni Road avec son réalisateur Stefano Savona. Cette semaine est un animal rare, un homme passé du pinceau de l'archéologue au viseur de la caméra, un documentariste qui parcourt le monde depuis son Italie natale. En 2011, il nous avait donné à voir la révolution égyptienne dans Tahrir, place de la Libération. Cette année, il va plus loin avec Samouni Road en nous faisant revivre un drame survenu lors de l'offensive israélienne de 2009, plomb durci. Bonjour Stefano Savona.
Bonjour.
Samouni Road est construit autour du massacre d'une famille dans la bande de Gaza. En un mois, entre décembre 2008 et janvier 2009, une famille, la famille Samouni, va perdre 30 de ses membres, 29 hein, pour être précis, tués pendant l'opération israélienne plomb durci.
اليوم السابع على التوالي ما زالت الهجمات الإسرائيلية تعصف بقطاع غزة.
Un extrait de votre film, Stefano Savona, Samouni Road. Donc les Samouni, en fait, c'est une famille de paysans, hein, c'est ça ? C'est des gens qui ont des oliviers, qui font pousser des fruits, des légumes ?
Oui, c'était des paysans qui, d'une certaine manière, ont été épargnés par tous les guerres qui se sont succédées dans l'air autour d'eux. À Gaza, il faut savoir, il y a juste 20% des populations qui est originaire de Gaza. L'autre 80%, c'est des réfugiés de 48, de 67, donc, qui ont été déplacés là-bas lors de la création de l'État d'Israël d'abord, et après la guerre de 67. Donc, et les Samouni, ils avaient même une sorte, pas de racisme, mais d'une certaine distance, par rapport aux réfugiés, parce que eux, c'était des paysans, des propriétaires de leurs terres qui cultivent encore, qui cultivaient. Et donc, ils pensaient pour ça, en fait, d'être différents même dans leur destin.
Ils pensaient qu'ils pourraient être protégés, hein, en fait, oui. Lors de cette attaque de l'armée israélienne. En fait, on leur demande, hein, même de se regrouper tous, oui. dans une même maison.
Déjà, ils décident de ne pas quitter les quartiers parce que, fort de leur passé en Israël, où ils avaient travaillé jusqu'à l'année 2000, jusqu'à la deuxième intifada, ils se considéraient à l'abri de la violence. Et ils disaient quand même, on leur parlera avec les Israéliens, on n'a pas de problème, on n'est pas politique ici. Et après, ils les rassemblent dans une maison, et après, pour des raisons... qui se comprend dans une logique militaire, des bavures militaires ou pas. Enfin, c'est pas le but du film de rentrer dans l'analyse militaire, mais quand même, il tire sur cette maison et il y a 29 morts, d'autres dans les quartiers, en fait 24 dans la maison, plus d'autres autour dans les quartiers, ce qui fait que dans ces grosses familles élargies de quelques centaines de personnes, il y a eu 29 morts à la fin de l'attaque de 2009.
Vous étiez l'un des rares, Stefano Savona, à être à Gaza pendant l'attaque israélienne.
Oui, j'étais arrivé 10 jours plus tôt, pas avant l'attaque, mais avant la fin de l'attaque. C'était un peu naïf mon propos, mais l'idée de rentrer à Gaza de l'Égypte avec ma caméra pour pouvoir témoigner de la guerre, j'avais senti si j'arrivais à le faire, ça aurait pu être bien. Et heureusement, je suis réussi à passer par la frontière égyptienne.
Mais comment vous avez fait? Parce que il n'y avait pas de journalistes. Enfin, vous avez une caméra, j'imagine.
Faudrait pas les dire. Mais enfin, c'était. J'ai profité d'une brèche dans l'attention des gens qui géraient la frontière, pour ainsi dire. Mais du coup, une semaine avant la fin de la guerre, je suis rentré à Gaza avec ma caméra. Je faisais à l'époque des courts-métrages que je mettais en ligne tous les jours et qui après sont devenus un film que j'appelais Plomb durci, avec le nom de l'opération militaire, et qui était juste vraiment une collection de petits portraits faits au quotidien pendant la guerre. N'étant pas journaliste, c'était pas non plus de la contre-information, c'était l'idée que le cinéma peut nous amener quelque part avec juste sa force de captation du réel. Une idée qui, à l'époque, dont j'étais convaincu à l'époque, et qui a commencé à se fissurer dans ma certitude quand j'ai connu les Samouni. Parce qu'en fait, le lendemain du départ des troupes israéliennes, j'étais prêt pour rentrer chez moi parce que cette forme de résistance par image était finie.
C'était une forme d'activisme. C'était le manque d'images qui vous avait conduit à Gaza.
Oui,
peut-être pas le manque d'images, mais le fait que les images que vous voyez vous paraissaient défaillantes.
Oui, c'était parce que c'était des images prises de trop loin, et soit c'était prises de trop près, si on peut dire. Enfin, les images de très loin ne peuvent pas raconter une guerre qui est à l'horizon, comme si quelque chose qui ne nous appartient pas. Et de l'autre côté, il y avait les images faites par des médias comme Al Jazeera arabe ou Al Arabiya, qui par contre avaient des directs de la salle d'opération de l'hôpital et qui ne racontent pas non plus, enfin rien du tout, qui sont les protagonistes du conflit, pourquoi ils sont tués, qu'est-ce qui s'est passé. C'était vraiment, il y avait cette polarisation des images, et l'un et l'autre, les uns et les autres étaient complètement, ça m'avait poussé dans une sorte de rage. J'étais chez moi à l'époque pendant les vacances de Noël, avant, parce que la guerre ça a été déclarée avant Noël. Et quand j'ai eu un appel d'un producteur avec qui j'ai travaillé à l'époque, qui m'a dit, mais pourquoi on n'essaie pas de rentrer à Gaza pour tourner des images. J'ai dit oui, mais c'était un oui assez naïf, un peu prétentieux, je pense.
Mais alors, l'idée, dans un premier temps, je crois que même que vous avez dit que ces petits films, pour vous, c'était une sorte de blog, hein, donc c'était une démarche vraiment activiste.
Activiste
dans le show, en
dans
fait.
Le show, l'idée de dire, on nous raconte ça au quotidien d'une manière qui, pour moi, n'avait rien à dire. Donc, moi, j'ai fait mes films, je les monte, je les mets en ligne tous les jours, et ça va aider. Ça va aider quoi, qui, je sais pas. Enfin, ça va aider quelqu'un comme moi de l'autre côté de l'écran à être un peu moins frustré pendant ses vacances de Noël, peut-être, mais ça va pas changer la donne. C'est ça le problème. On s'est fait toujours beaucoup d'illusions sur notre moyen d'avoir une empreinte sur notre contemporaine, et après, c'est pas le cas. C'est pour ça.
Mais vous vous dites ça, Stefano, cette sorte de désillusion, vous en rendez compte là, 8 ans après, ou assez vite, ce qui vous amène justement, un an après l'opération, à retourner voir les Samouni?
Non, en fait, je me rends compte avec les cérémonies presque en temps réel. Enfin, le lendemain, enfin, la guerre est finie, l'urgence est finie, ou quand même moins forte. Donc, je prends le temps de rester plus longtemps avec un seul protagoniste, avec, enfin, en l'occurrence, la famille Samouni. Et je découvre à quel point passer avec une caméra, comme un balai, après que les choses sont détruites, ne sert pas à grand chose. C'était Bresson qui avait dit la caméra n'est pas un balai. Mais c'est, on arrive trop tard, et donc on a l'impression que ce monde soit toujours le lendemain d'une tragédie. Mais nous, si on fait du cinéma, entre guillemets, les tragédies, c'est notre terrain des, les tragédies dans le sens narratif du terme sont notre pain quotidien. Mais il faut le raconter du bon endroit. Faut pas arriver après faire les constats. C'est pour ça qu'après beaucoup des documentaires n'est pas du cinéma, parce que si devient juste un constat de quelque chose qui est déjà passé, il y a pas de drame. Il y a une souffrance sans drame qui n'est pas vraiment du cinéma, à mon avis. Donc, j'ai dû remettre en question mes manières d'interpréter mon travail, et j'ai dû assumer la tâche de reconstruire, de remettre en scène. Et ça, j'ai compris plutôt vite, cette nécessité. Après, comment le faire, j'ai compris beaucoup plus tard. C'est pour ça que le film sort presque 10 ans plus tard.
Donc vous, c'est un mariage en fait, c'est ça, c'est l'annonce d'un mariage, oui, qui vous pousse à retourner à Gaza, et vous allez retrouver cette petite fille, Amal, qui est une sorte de miraculée, parce qu'après l'offensive israélienne, elle a passé 3 jours sous les décombres, elle a encore des éclats d'obus dans le crâne. Comment ça se passe? C'est-à-dire c'est les enfants qui viennent vers vous plus spontanément que les adultes, ou c'est vous qui allez vers elle?
Déjà en 2009, j'avais beaucoup tourné avec les enfants, les adolescents, pas Amal, que je filme juste dans une séquence, parce qu'après, elle était encore, venait de sortir de ses traumatismes, donc je voulais pas l'approcher. C'était absurde de poser des questions, des choses comme ça, donc je la filme à son retour dans les quartiers. Et après, un an plus tard, quand je suis reparti pour le mariage, parce qu'on m'a invité au mariage, on m'a dit, bah, tu vois, finalement, on va se marier. Et là, j'ai retrouvé Amal, que je ne savais même pas, parmi les autres, je n'avais pas forcément trop remarqué avant. Et tout le monde m'avait, comment dire, accueilli comme invité au mariage un an plus tard, parce que j'avais déjà passé un mois avec eux. Et elle, je la connaissais presque pas, et avec ses silences, cette manière de regarder autour d'elle sans parler, elle s'est imposée comme la guide de mon film. Moi, j'étais sûr que mon film aurait été amené par les discours de et c'était beaucoup parmi les Samouni qui savaient très bien raconter leur histoire, comme les frères d'Amal, Fouad ou Farage. Leur manière de se raconter m'avait donné envie d'élargir les points de vue du film, justement de ne pas rester bloqué sur le lendemain de la tragédie, mais aller rechercher qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce que la guerre avait détruit. Mais quand j'ai connu Amal et ses déplacements silencieux dans les quartiers, je me suis dit, bah, il faut redonner des paroles, pas des paroles, des images, il faut redonner de la matière cinématographique à cette mémoire qui a du mal à ressurgir. Et là, j'ai commencé à imaginer une mise en scène d'animation, de réanimation, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais sans en avoir encore absolument les moyens, parce que j'avais jamais fait de l'animation, je n'avais presque jamais vu. J'étais très ignorant du cinéma d'animation, donc j'ai dû apprendre, et ça nous a pris du temps, mais c'était peut-être nécessaire, je sais pas.
Oui, parce qu'en fait, vous reconstituez, on ne l'a pas dit, hein, mais vous reconstituez en fait toutes les scènes de bombardement, entre autres, grâce à l'animation d'un homme extraordinaire, le dessinateur Simone Massi. Et lui, sa technique, en fait, en plus, elle est très particulière, parce que c'est, on appelle ça de l'image grattée, je crois.
Oui, c'est des images qui sont grattées sur des feuilles de papier blanc.
Il jette de l'huile noire, c'est ça?
C'est
et il gratte
du pastel à l'huile.
Ah oui.
Donc c'est comme du pastel à cire, je ne sais pas comment on appelle ça en France, qui est gratté après avec des outils métal, comme des micro-pioches qui grattent la... enfin, on faisait ça un peu aux écoles primaires chez moi.
Ça ressemble à des gravures.
Oui, oui, c'est des gravures faites, mais très délicates et très, c'est une technique qui fait que, comme pour faire une image, il faut quand même 2 heures, 3 heures de travail d'un animateur. Du coup, on voit vraiment toute la
matière.
La matière, et on voit aussi tous les doigts. Enfin, c'est quelque chose qui est plein de vie parce qu'il faut beaucoup de temps pour faire ressortir les images et c'est une, c'est comme dessiner dans les sables une certaine manière. C'est
et très vous, mis, j'imagine, c'est vous qui êtes si attentif, Stefano Savona, justement à la nature, à la terre, à la végétation, etc. J'imagine que vous avez adoré cette technique. Oui. Ça répondait à quelque chose de très fort chez vous.
C'est, malheureusement, j'ai adoré cette technique parce qu'après j'avais un peu sous-estimé
le temps
et la tâche de l'employé pour faire quelque chose qui était déjà Simone. Avait fait dans toute sa carrière de 25 ans, plus ou moins une heure d'images animées comme ça, parce qu'elle a fait des courts-métrages, un court-métrage de 6 minutes, il prend facilement 3 ans pour le faire.
Et là, il y a 40 minutes d'animation dans sa Mooney Road.
Oui. Donc on a dû quand même réimaginer sa technique, déjà les faire travailler avec d'autres animateurs, donc finalement ils ont travaillé 30 animateurs qui ont appris sa technique. Et après, comme il n'était jamais allé à Gaza, c'était pas question de pouvoir animer quelque chose qu'il connaissait pas. Lui, il a toujours fait des films sur sa famille, sur sa mémoire de son village paysan dans le centre de l'Italie. Et du coup, je me suis dit, peut-être que je pourrais garder, la chose que je sais faire et lui faire faire ce qu'il est capable de faire. Donc moi, j'ai reconstruit les quartiers en 3D, en image de synthèse. Enfin, on l'a reconstruit physiquement comme si on devait les reconstruire après pour de vrai, avec des gens qui font ça à l'ordinateur. Et après, on a reconstruit, on a remodelé chaque personnage, on l'a animé comme si on était en train de faire un film pour Pixar ou un jeu vidéo. Après, j'ai filmé ça avec ma caméra virtuelle. J'ai demandé de pouvoir filmer ça comme si en me déplaçant virtuellement dans les quartiers avant la destruction. Et donc, j'ai filmé toutes les scènes comme ça. On a imprimé chaque image qu'on voulait avoir dessinée. On l'a donnée aux animateurs. Les animateurs, enfin, qui sont pas, techniquement, c'est pas des animateurs, c'est des dessinateurs. Parce qu'ils sont redessinés image par image avec cette technique.
Avec le modèle. En fait, le modèle était en image de synthèse. Et après, ils ont transposé avec cette méthode d'image grattée. Ce qui donne, en fait, du coup, un caractère hybride au film. Parce qu'en fait, vous reconstruisez c'est des moments, du quotidien, de la famille, d'avant la catastrophe.
Oui. C'est un peu le rêve d'Amal, par moment, hein, c'est ses souvenirs à elle.
C'est toujours.
Et c'est là souvenir. Où le film devient magique.
Oui. C'est toujours. Moi, j'ai pas voulu reconstruire la vie d'avant. J'ai voulu reconstruire la mémoire d'Amal de sa vie d'avant. Et donc, d'une certaine façon, j'étais inspiré par sa propre manière de dessiner dans les sols ou de raconter ses souvenirs. Et après, je n'ai raconté que les choses qu'elle a vécues. Donc, comme en plus, elle avait été revenue des morts, parce que tout le monde croyait qu'elle était parmi les disparus, parmi les martyrs. J'ai pensé qu'elle, avec son regard silencieux, qui était quand même un regard presque au-delà de l'humain, comme quelqu'un qui est devenu un peu magique parce qu'elle est revenue des morts. Et sa mémoire qui était sur cette fonte noire, c'était quand même un ardoise noire, d'où ressurgissait comme par miracle des séquences violemment et avec difficulté aussi, des séquences en blanc avec cette technique de grattage. Enfin, c'est une technique qui met en scène sa propre difficulté aussi. Parce que
elle a
pas
du mal
donné
à la raconter, son histoire.
Oui, oui, oui.
C'est dit dès le début du film.
Oui, oui. C'est pas comme on racontait. Et moi non plus. Je savais pas. Mais on l'a. C'est pour ça que c'est vraiment des images arrachées à l'impossibilité. Parce que là, malheureusement, on peut pas réanimer. Enfin, on essaye.
Les chars israéliens sont entrés par le nord de la bande de Gaza en début de soirée. Les colonnes de blindés se sont dirigées vers les localités palestiniennes de Beit Hanoun et Beit Laya. Les intenses tirs de mitrailleuses lourdes que l'on entend clairement de l'autre côté de la frontière confirment que le Hamas a engagé le feu avec les soldats israéliens. Les troupes au sol sont appuyées par des moyens aériens qui survolent en permanence la frontière. La marine est également entrée en action. La deuxième phase de l'opération plomb durci a commencé enfin fin d'après-midi à la tombée de la nuit avec d'intenses tirs d'artillerie. L'armée israélienne a engagé d'importantes forces terrestres, aériennes et maritimes avec l'objectif de détruire les infrastructures Hamas. Une opération qui ne sera, d'après le ministre israélien de la Défense, ni facile ni rapide. Catherine Monet, à la frontière nord de la bande de Gaza, RFI.
Voilà un reportage diffusé sur RFI le 4 janvier 2009, presque au moment où la tragédie touche la famille Samouni. Alors on entend bien dans le reportage qu'il y a deux parties, évidemment, d'un côté le Hamas, de l'autre l'armée israélienne. Eux, les Samouni, sont totalement apolitiques, hein. C'est des paysans, je le disais, ils ont des oliveraies, ils ont le sens de la terre, hein, du soleil, de l'odeur des oliviers. Mais en fait, après cette tragédie, leur statut forcément a changé.
Oui, parce que par hasard, c'est vraiment par hasard, en fait, parmi les morts, il y a la plupart des hommes de la génération des pères qui étaient assez contre les Hamas, les djihad islamiques, les autres partis politiques, pour des raisons historiques, justement, liées au fait qu'ils sont des paysans et ne sont pas des réfugiés.
Donc, qui travaillent avec les Israéliens, oui, c'est dit dans le film, qui parlent l'hébreu.
Mais donc, ils disparaissent, ils deviennent même des martyrs, comme on dit à Gaza, pour donner du sens à la mort dans des conditions pareilles. Et les enfants, les adolescents se retrouvent avec cette impossible tâche d'être fidèle à la vraie mémoire des pères et de vivre avec une mémoire qui est réimaginée par les pouvoirs en place comme une mémoire des martyrs politicisés. Donc c'est assez difficile pour quelqu'un de 20 ans ou de 15 ans ou de 13 ans de réussir à faire face à ça et à ne pas se faire exploiter la mémoire, parce que c'est pas juste de l'exploitation, c'est aussi une manière de donner du sens à quelque chose. Donc, moi, j'ai senti aussi, principalement, que les films auraient dû être quelque chose qui devait être à côté de la dernière génération, justement pour la préservation de cette mémoire. Après, la mémoire évolue, mais c'est important de ne pas partir des bases, enfin, de ne pas vendre comme le passé, quelque chose qui se met en place dans les futurs. Et surtout, si c'est pas notre propre agenda, mais c'est quelqu'un qui utilise les événements pour et le fait qu'il n'y a plus rien, parce que la destruction produit quand même du vide, et dans cette vide, et on peut tout redessiner. Et moi, j'ai cherché de faire exister dans cette vide, avec les films, ce qu'il y avait avant, pour rappeler comment on pourrait reconstruire après.
Ce que vous montrez dans le film, c'est des gens qui sont pris dans cette espèce de conflit effroyable, sans fin, qui n'ont aucun futur, qui peuvent à peine habiter le présent. Mais en même temps, c'est des paysans, c'est-à-dire c'est des gens qui ont le sens de la terre, qui ont l'amour des oliviers, etc. Est-ce que vous avez pensé à vos ancêtres paysans en Sicile?
Ah oui, moi, ça m'a beaucoup aidé, en attendant l'inspiration et la manière de la financer pour finir les films sur les Samouni. J'ai beaucoup travaillé un gros archive de la mémoire paysanne sicilienne qui s'appelait les Pins de Saint-Joseph. Et donc, j'ai fait des interviews avec presque 200 vieux paysans et bergers siciliennes. C'était juste après ma première période à Gaza. Et là, leur manière de raconter, la manière de se raconter, de raconter la relation au pouvoir lointain, mais aussi au pouvoir de la ville à côté, j'ai senti beaucoup, beaucoup de similarités et avec l'histoire que j'ai commencé à percevoir à Gaza avec les Samouni. Du coup, quand je suis reparti à Gaza pour la deuxième partie des tournages, là, j'avais intégré cette dimension de la relation paysanne au pouvoir, et je pense que ça m'a vraiment beaucoup aidé.
C'est quoi la relation paysanne au pouvoir?
C'est-à-dire que les pouvoirs les plus effroyables, c'est les plus près. Quand j'ai demandé à un survivant Samouni, qu'est-ce qui t'a pris ton père? Le père est disparu. Enfin, demande assez banale, mais. Et lui, sa réponse n'était pas banale du tout. Parce que moi, j'imaginais qu'il pourrait me répondre le courage. Et lui, il m'a répondu à négocier avec les autorités pour l'eau des champs.
Pour
l'eau
Pour l'eau des champs.
C'est Jean de Florette.
Mais vous, en fait, je crois que votre spécialité en archéologie, c'est les structures de pouvoir dans l'Égypte ancienne, hein,
oui,
c'est ça?
Oui,
donc ça, il y a une vraie continuité.
Oui, oui. Ça, la gestion de l'eau.
Travail.
L'eau, c'est le pouvoir dans des régions où l'agriculture est la base de la vie. Donc, enfin, et ça, c'était, ça m'a vraiment frappé quand Salah Soumouni m'a dit ça, parce qu'effectivement, le problème, c'est que si le pouvoir lui coupe l'eau, il n'a plus rien à faire avec ses champs. Donc, sa campagne devient inutile. Et donc, l'ennemi israélienne est bien plus éloignée, était bien plus éloignée jusqu'au moment où la guerre arrive dans les quartiers.
Vous êtes toujours en contact avec les Samouni, parce que donc Samouni Road, on le redit, hein, ce sont des images de 2010. Forcément, Amal a beaucoup grandi. J'imagine aussi que où est-ce qu'ils en sont?
Enfin, Amal vient de se marier il y a 3 jours.
Ben, c'est vrai qu'elle est journaliste. Hein.
Elle a étudié le journalisme à l'université de Gaza. Son frère Mahmoud est orthophoniste. Et il vient de se marier aussi. Enfin, tous les deux se sont mariés après la sortie du film à Cannes. Donc, en mai, c'était Mahmoud. Et là, il y a 3-4 jours, c'était Amal. Donc, on se parle presque tous les jours sur Facebook, sur Messenger, parce que maintenant, c'est plus facile parce qu'il a la traduction automatique de l'arabe. Donc,
ils ont réussi à se reconstruire 8 ans après.
Oui, c'est pas facile aujourd'hui. C'est pas du tout un happy ending parce que Gaza est toujours dans l'état des sièges dont l'histoire de cette partie du monde les a plongés depuis 10 ans presque plus même. Et du coup, c'est pas du tout facile. Ils peuvent pas sortir. Très peu pour rentrer à Gaza, ils n'ont pas de possibilités du point de vue économique, mais ils s'avancent. Ses frères ont beaucoup d'enfants déjà. Farage, celui qui a s'est marié à la fin du film, il a eu 3 enfants depuis, et son frère, tous ses frères aussi. Enfin, il y a déjà une vingtaine de nouveaux Samouni dans la famille, et donc la vie ne s'arrête pas, parce que ça ne peut pas s'arrêter. Mais ça ne veut pas dire que tout va bien, évidemment.
Merci Stefano Savona. Je rappelle le titre de votre film en salle depuis mercredi, Samouni Road. Est-ce que vous avez le projet, vous qui avez filmé le présent de l'Égypte, le présent de la bande de Gaza, est-ce que vous avez le projet de retourner en Italie un de ces jours?
Moi j'y suis tout le temps, trop même. Là,
trop,
oui. L'Italie, c'est pas trop bien en ce moment. Enfin, c'est pas... Non, mais j'ai le projet de revenir, repartir au Moyen-Orient bientôt pour faire d'autres films. Mais
pas filmer en Italie.
Mais si, j'ai fait des choses en Italie. Sauf que c'est plus difficile peut-être. Moi, on me demande souvent quelle est ma légitimité pour filmer le Moyen-Orient. Et finalement, je pense que je réponds toujours depuis quand l'autoportrait est le portrait plus fidèle.
Merci beaucoup, Stefano Savona. C'est un bon mot de la fin. Tous les cinémas du monde, clap de fin. Au micro, Sophie Torlotin.
Et Elisabeth Le Quéré. À la réalisation, Fanny Renard.
Et la semaine prochaine, nous partirons au Festival d'Amiens pour une émission spéciale consacrée au grand cinéaste burkinabé disparu en février dernier, Idrissa Ouedraogo. D'ici là, bonne semaine à tous.
Tous les cinémas du monde. Vous avez raté la séance? Podcastez ou réécoutez tous les cinémas du monde sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.